RFI, 7h42, en temps universel. La suite des RFI matin, c'est le journal des sports. Avec vous, Christophe Diremzian, du football et le Togo qui écarte pour de bon le Bénin de la route du CHAN 2025.
Pas de mauvaise surprise, effectivement, pour les éperviers arrivés à Abidjan, munis de leur victoire 2-0 à domicile le week-end dernier. Les Béninois n'ont pas pu faire mieux qu'un nul. Un partout, à défaut d'avoir vraiment brillé dans ce match, les Togolais ont assuré l'essentiel pour le sélectionneur Kader Koubadja Touré.
L'objectif est atteint, on est content. L'objectif, c'est d'être qualifié. Le match aller, on a fait une belle prestation. Aujourd'hui, bon, sur le foot, on était loin de notre standard. Mais je savais que oui, on pouvait faire quelque chose ici. Et féliciter mes joueurs qui ont tout fait pour résister, sachant que c'était difficile émotionnellement. Donc, je dirais que le plan de jeu qu'on avait prévu a marché, de marquer tôt pour pouvoir assommer l'adversaire, le décourager. Donc, ce qui a marché pour nous, tant mieux pour nous.
Kader Koubadja Touré avec Youen Gourlet. Prochaine étape vers le CHAN pour les Togolais. Ce sera fin décembre face au Niger.
En Europe, belle journée pour les buteurs africains dans les différents championnats.
Et notamment pour l'Égyptien de l'Eintracht Francfort, Omar Mahmouche, qui a participé avec un but, son 10e en championnat, à la déculottée infligée à Bochum, 7-2 lors de la 9e journée. Et puis en Ligue 1, Nice est allé battre Brest 1-0 grâce à l'Ivoirien Evan Guessant. De son côté, Saint-Etienne est sorti de la zone de relégation en dominant Strasbourg 2-0 grâce notamment à un but du Malien Ibrahim Sissoko.
Et puis c'est le choc du week-end en Angleterre, Manchester United de Chelsea.
Des Mancuniens en pleine crise, 13e de Première Ligue ce matin et en plein changement d'entraîneur, contexte donc plutôt favorable aux Blues dans leur volonté de mettre un terme à 11 ans sans victoire à Old Trafford. Depuis le début de la saison, ils peuvent notamment compter sur l'efficacité de leur avant-centre sénégalais Nicolas Jackson, qui a pris une toute autre dimension depuis son arrivée il y a un an. Victor Misistrano.
Il faut se mettre dans la tête qu'il peut gagner le Ballon d'Or. C'est ce que vient de déclarer Kalidou Koulibaly au sujet de son coéquipier en sélection. Le défenseur des Lions se dit persuadé que Nicolas Jackson va marquer l'histoire du Sénégal comme Sadio Mané. Rien que ça, auteur de 6 buts et 3 passes en 9 matchs, l'attaquant de 23 ans est en train de passer un cap sous les ordres d'Enzo Maresca.
Nico nous aide, pas seulement sur le plan statistique, mais aussi dans la façon dont nous voulons jouer. On est très content de lui, on essaie de le faire progresser et de travailler sur lui depuis le début. Since we
start. Je crois que dans 2-3 ans, il sera l'un des meilleurs attaquants en Europe.
Le journaliste Yoro Mangara suit Nicolas Jackson depuis ses débuts à Casasport au Sénégal et il n'est pas surpris de le voir s'imposer à Chelsea.
Il a fait mieux qu'un certain Didier Drogba lors de sa première saison avec les Blues de Chelsea. Il fallait quand même qu'il gomme certaines lacunes, c'est-à-dire qu'il fasse un travail devant le but. Il démarrait avec une vitesse grand V. Il fallait qu'il apprenne à ralentir au moment du dernier geste, à être un peu plus relâché.
Relâché, comme sur son but face à Newcastle le week-end dernier, Nicolas Jackson serait bien inspiré de marquer dans le théâtre des rêves afin de mettre fin au cauchemar des Blues qui n'y ont plus gagné depuis 2013.
Enfin, l'arrivée finale du Tour du Faso à Ouagadougou aujourd'hui, au terme d'une 10e étape lancée de Bousset et sauf accident, le maillot jaune, le Marocain Mohsin El Khouraji, n'est plus qu'à quelques heures de son premier sacre dans cette course.
Merci Christophe Diremzian.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une de l'info ce matin, les États-Unis à J-2 de la présidentielle, déjà 72 millions de votes par anticipation. Cela représente environ 45% de la participation totale à la présidentielle de 2020. La course au meeting dans les États-clés s'est poursuivie hier pour Donald Trump et Kamala Harris, notamment en Caroline du Nord, la candidate démocrate qui s'est aussi offerte hier soir une apparition surprise à Saturday Night Live, l'émission satirique très populaire du samedi soir qui parodie l'actualité. La COP16 sur la biodiversité en Colombie se termine sans accord malgré une nuit supplémentaire de tractation. La salle s'est progressivement vidée. Une petite avancée tout de même, la création d'un fonds abondé par les entreprises qui font des bénéfices en utilisant le génome numérisé de plantes ou d'animaux, comme par exemple pour l'arôme de vanille. Et puis en Espagne, le Premier ministre annonce l'envoi de 10 000 policiers et militaires supplémentaires dans la région de Valence. Des renforts pour faire face aux dégâts des inondations et chercher les disparus. Le dernier bilan en date fait état de 213 morts.
USA 2024.
When we fight, we win.
We will make America great again.
Et on reparle des États-Unis à deux jours de la présidentielle américaine. Mardi, une grande partie du monde aura les yeux rivés sur les résultats. RFI sera d'ailleurs en édition spéciale mercredi matin à partir de 3h, temps universel, pour vous les faire vivre en direct. Et dans notre tour du monde des correspondants, coup de projecteur aujourd'hui sur trois pays où l'on suit le match Trump-Harris de très près. C'est le cas de l'Allemagne, pays très proche des États-Unis. Ici, c'est une victoire de Donald Trump et ses conséquences qui suscitent l'inquiétude, Pascal Thibault.
La rédemptrice, la une du magazine Stern il y a quelques semaines avec Kamala Harris en statue de la liberté, résume bien le sentiment ambiant en Allemagne. 4 personnes sur 5 voteraient pour la candidate démocrate. Ils sont autant à être persuadés que l'actuelle vice-présidente serait préférable pour les intérêts de l'Allemagne et de l'Europe. Dans un pays profondément marqué par les États-Unis depuis la guerre, politiquement et culturellement, les élections présidentielles de mardi sont couvertes comme un enjeu national. Elles font la une de nombreux journaux ce week-end, de nombreuses émissions spéciales sont prévues. À Berlin, les passionnés pourront dans plusieurs endroits suivre la soirée électorale américaine. Tout est en jeu, titre le magazine Der Spiegel ce week-end. L'avenir du grand frère américain suscite l'angoisse de la classe politique et des Allemands. Le quotidien de gauche Tageszeitung rassurait hier avec une liste de 50 raisons d'aimer les États-Unis, malgré tout et malgré une possible victoire de Donald Trump.
Pascal Thibault à Berlin, où vous l'entendiez, les médias sont mobilisés pour suivre cette élection. C'est moins le cas en Afrique du Sud, même si l'intérêt pour le scrutin est bien réel. Alors que plusieurs personnalités de la Silicon Valley qui soutiennent Donald Trump ont grandi dans le pays à l'époque de l'apartheid, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs leur positionnement très conservateur, Claire Bargelès.
A commencer bien sûr par Elon Musk, redevenu l'homme le plus riche du monde et qui s'est lancé de tout son poids dans la campagne aux côtés de Donald Trump. S'il est naturalisé américain, le patron de Tesla est né et a grandi à Pretoria et ses publications sur son réseau social X pour dénoncer un imaginaire génocide des Blancs en Afrique du Sud n'est pas sans rappeler l'exploitation des théories du complot par le candidat républicain. À ses débuts au sein de la Silicon Valley, Elon Musk faisait partie du groupe surnommé la mafia PayPal, des figures de la tech qui ont gravité autour de l'entreprise de paiement en ligne. Deux autres membres de ce groupe, aujourd'hui derrière Trump, ont eux aussi passé du temps dans l'Afrique du Sud d'apartheid, comme l'a relevé le Financial Times. Le capital risqueur David Sachs a vécu dans le pays jusqu'à ses 5 ans, avant d'émigrer avec sa famille aux États-Unis, tandis que Peter Thiel, cofondateur de PayPal, a passé une partie de son enfance entre l'Afrique du Sud et la Namibie, elle aussi à l'époque sous régime ségrégationniste. Des expériences qui ont peut-être façonné leur vision du monde et les rendre réceptifs au discours du candidat conservateur.
Claire Bargelès en Afrique du Sud et puis au Canada, pas question de répéter le scénario de 2016 où le gouvernement était tellement certain d'une victoire d'Hillary Clinton qu'il n'avait même pas le numéro de téléphone de Donald Trump pour le féliciter le soir de son triomphe inattendu. Rien de tel cette année, Pascal Guéricola. Depuis des mois, une équipe est à pied d'œuvre pour permettre un dialogue avec les deux parties.
La stratégie du gouvernement canadien pour développer des liens privilégiés au sud de la frontière a un visage, celui du ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Sans relâche, cet hyperactif arpente le territoire américain pour rencontrer des élus au Congrès, des chefs d'entreprise, des représentants municipaux. Accompagné de ministres, de députés, de délégués du monde des affaires, le ministre insiste, le Canada et les États-Unis ont tout intérêt à entretenir une relation d'amitié étroite, quel que soit le parti élu à la Maison-Blanche. Cette même équipe a aussi participé aux négociations autour du nouvel accord de libre-échange américano-canadien et mexicain. Cependant, des diplomates jugent avec condescendance ces rencontres très médiatiques et prêchent pour un réseau de relations plus discret. Reste qu'au moins, le gouvernement s'active pour trouver des alliés. Il en aura bien besoin pour faire face aux politiques protectionnistes annoncées, tant du côté républicain que démocrate.
Pascal Guéricola au Canada et notre tour du monde des correspondants à retrouver comme chaque dimanche sur RFI.fr.
RFI Matin.
Et sur RFI ce matin, c'est le retour de l'Afrique en marche. Vous avez découvert notre série cet été. Elle revient chaque dimanche pour découvrir des initiatives gagnantes sur le continent africain. Une entreprise qui innove, une idée qui mérite d'être relayée et aujourd'hui un projet inclusif en Côte d'Ivoire. À Abidjan, l'association Les Amis du Cœur organise le 14 novembre prochain la deuxième édition de son Handicap Fashion Show, un défilé de mode avec 10 mannequins valides et 10 mannequins en situation de handicap. et qui est ce qui se fait de plus beau en matière de mode ivoirienne, Frédéric Gara.
Le Handicap Fashion Show d'Abidjan, c'est un rendez-vous festif qui conjugue haute couture et handicap. Un défilé de mode ouvert à tous pour casser les a priori et les regards négatifs de certains sur les personnes souffrant de paralysie, d'un membre amputé, d'albinisme ou encore d'autisme.
C'est un peu complexe. Parfois, on vous traite d'handicapé, on se moque de vous, on vous aime. C'est vraiment pas évident, la vie d'une personne en situation de handicap. Se faire accepter, c'est compliqué.
Celle qui nous explique son quotidien, c'est Nuella, chanteuse originaire de Yopougon, organisatrice de ce défilé. Elle-même a souffert de cette stigmatisation. Loin de la décourager, cela l'a motivée à faire bouger les choses, entre autres avec son association Les Amis du Cœur.
Ce qu'on ne doit pas faire, c'est vraiment abandonner, dire non, rien ne se fait et donc on laisse. Non, on doit se faire entendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on ne doit pas lâcher. À force de se faire voir, à force de se faire entendre, c'est ainsi que l'inclusion va vraiment se faire et montrer aux gens qu'on est handicapé ou pas handicapé, tout le monde a le droit d'exister.
Exister et se montrer comme tout un chacun et travailler comme n'importe qui, car au-delà de ce handicap fashion show, le projet est de former ses participants handicapés au métier de la mode. Mannequinat, couture, maquillage ou coiffure. C'est pour cela que des stylistes réputés en Côte d'Ivoire comme Reda Fawaz ou des coachs en mannequinat comme Maître Kasséré ont tout de suite adhéré au projet de Nuella pour prodiguer des masterclass. Maître Kasséré.
J'ai demandé à celle qui était en fauteuil roulant de faire un premier test. Et je vous assure que quand elle est montée sur la scène avec sa chaise roulante, mais c'était extraordinaire, c'était émouvant en fait. On pouvait entendre le public qui était émerveillé de voir pour une première fois des personnes en situation de handicap faire un défilé. On a vu le public qui faisait des photos avec ces mannequins-là, c'était extraordinaire.
L'une de celles qui s'épanouit dans ce rôle de mannequin et qui est par ailleurs maquilleuse, c'est Yaba Zalissa Imourou.
Tout à coup comme ça, tout a basculé, je me suis retrouvée dans un fauteuil. D'abord je me détestais, je ne voulais plus vivre.
Il y a 10 ans, cette jeune femme de 31 ans a été clouée dans un fauteuil roulant à cause d'une drépanocytose mal soignée. Un handicap qui n'a pas empêché Yaba d'être acclamée lors du défilé de l'année dernière.
C'était vraiment merveilleux, j'ai pas de mots. Parce que les personnes en situation de handicap ont l'habitude de se cracher. Ils s'attendaient pas à voir une personne aussi belle que je suis, voilà. Après le défilé, j'ai dit « Ah, donc moi aussi, je vais faire quelque chose. Ah, tu vois, on va déclencher un truc qui va apporter plein de courage aux autres. Ils vont vouloir aussi se montrer aussi. Et c'est ça, c'est le combat qui est là. »
Un combat et une inclusion des handicapés africains qui passent aussi par un emploi, souvent rejeté du monde du travail. La motivation des handicapés est pourtant souvent démultipliée pour encore mieux s'intégrer. De la difficulté peut naître parfois une surmotivation. Hervé Bernard est directeur de l'inclusion à l'ONG Handicap International.
On ne veut pas non plus construire un autre stigma et un autre biais qui serait l'ultra-positivité ou le super-héros handicapé. On fait très attention aussi à ça. Mais par contre, c'est vrai que toute personne qui galère et qui a du mal à trouver un travail, quand on lui tend la main et qu'on l'accompagne, en général, c'est des personnes qui en sont reconnaissants et qui saisissent ces chances. Et voilà, donc après, ça reste des personnes comme les autres et il peut aussi y avoir des personnes qui n'ont pas trouvé le bon emploi ou pour qui ça ne correspond pas.
Pas d'angélisme donc en matière de handicap, mais un réel enjeu en matière d'inclusion sociale et professionnelle. En 2014, on estimait à 450 000 le nombre de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, elles sont plus de 80 millions sur le continent.
L'Afrique en marche. Frédéric Gara et le Handicap Fashion Show, ce sera à Abidjan le 14 novembre à 19h à la résidence de l'ambassade des Pays-Bas. RFI bientôt 8h en temps universel, bientôt la fin des RFI matin et avant le retour de l'info, notre parenthèse mode du dimanche avec 100% création rencontre aujourd'hui avec le styliste Issa Sorogo alias Sorobis, créateur emblématique de mode. Il se consacre à la valorisation du textile africain en mettant en lumière les artisans locaux pour porter au plus haut l'authenticité africaine sur la scène internationale tout en soutenant des projets sociaux et économiques. En Afrique de l'Ouest, rencontre avec Sorobis au micro de Maria Afonso.
La création, c'est ma source de vie. C'est un don que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est un bonheur abstrait, certes, mais ça me rend accompli.
Issa Sorogo, alias Sorobis, styliste designer de la marque Sorobis.
Sorogo qui représente mon nom et Bis pour dire junior parce que je prends la relève du père. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, les Américains ont commencé à dire Sorogo Bis, Sorogo Bis. Oh, c'est trop long. Ils ont dit non, Sorobis.
Sorobis est né en Côte d'Ivoire d'un père ivoirien et burkinabé et d'une mère nigériane. Son père tailleur habillait déjà des personnalités. Avec ce riche héritage, il s'est naturellement orienté vers le monde de la mode, mais avec une approche bien à lui. Sorobis croit à la nécessité de protéger les textiles africains contre les imitations venues d'Asie. Aujourd'hui basé à New York, il réalise que sa voix résonne encore plus fort sur la scène internationale.
Les Américains noirs et même les Américains caucasiens, ils adorent. Il faut des gens comme nous qui soyons sur place et qui voyons le besoin et qui mettions à la disponibilité de ces gens-là ce tissu qui est fait de façon authentique en Afrique. Il y a une différence entre l'original et la copie. Pour ceux qui ne connaissent pas, dès lors où les couleurs sont là, que ça vient de l'Asie ou de l'Inde ou quoi, ils se disent, ouais, il y a un peu de motif africain, c'est bon. Alors que non, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que tout ça, c'est protégé par l'Organisation Internationale du Commerce. Si on le fait pas, c'est des emplois qui sont pris. Donc, être dans une ville comme New York, qui est quand même le carrefour du monde, ça nous permet d'avoir un œil et savoir où mettre l'accent pour vraiment bien faire la promotion de ce textile-là et le mettre à la disposition des gens qui sont vraiment intéressés. Ça crée une certaine limite par rapport aux copies qui viennent de Chine ou de l'Inde.
Sorobis est aussi engagé socialement à travers la mode. Il travaille avec des artisans locaux, des coopératives de femmes qui, comme lui, sont ancrées dans cette tradition textile.
On a la chance qu'en Afrique, il y a beaucoup d'artisans, surtout au Burkina en Côte d'Ivoire. À la base, c'est eux que je veux mettre en valeur. Au-delà de mon travail de créateur, ce sont des enfants abandonnés, des femmes qui sont veuves. C'est tout ce qu'elles font pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est des gens qui travaillent avec beaucoup de qualité. Nous leur donnons une force économique quand nous arrivons. On essaie de les motiver en travaillant avec eux, en disant « Tiens, voilà la photo de ce que tu as fait, le monde entier a vu, et du coup, c'est comme ça que ça marche. »
Retrouvez l'univers de Sorobis sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour refermer cette édition d'RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Demain, vous retrouvez Andréane Mellard dès 5 heures, temps universel, et d'ici là, l'info continue, bien sûr. Très bon dimanche à l'écoute de la Radio du Monde.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Spécial esprit de famille avec Evelyne et Claude Askolovitch qui publient « Se souvenir ensemble ». Conversation sans concession entre une mère, ancienne déportée à Bergen-Belsen, et son fils, journaliste. Qu'est-ce qu'un souvenir de déporté et comment faire transmission?
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.